semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, nous sommes le samedi 10 mai, on se retrouve pour vivre 7 jours d'événements avec bien sûr la rédaction, donc pour un nouveau tour du monde grâce à ses correspondants. Je vous rappelle que vous pouvez aussi podcaster cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Rendez-vous avec l'actualité africaine dans la seconde partie de l'émission après le flash. Le choc des empires, c'est le titre de l'essai de notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Quatrepoint, livre publié chez Gallimard. Bonjour Jean-Michel Quatrepoint.
Bonjour.
Où il est toujours question d'empire.
Eh
on n'en sortira jamais.
Mais non. Depuis les temps immémoraux. Et on recommence à avoir des empires aujourd'hui. En 1990, on a pensé à un moment donné qu'il n'y avait plus d'empire et que l'hyperpuissance des États-Unis triomphait, que c'était la fin de l'histoire. Et en fait, on s'aperçoit que les empires sont toujours là. L'hyperpuissance américaine veut rester un empire. La Chine veut et redevient l'empire qu'elle était jusque dominant qu'elle était jusqu'au 19e siècle. Et il y a un troisième venu qui est non pas l'Europe, mais l'Allemagne. Car ne nous en déplaise, et malheureusement, l'Europe aujourd'hui est une Europe allemande.
De tout cela, nous allons reparler. Vous le savez, Jean-Michel Quatrepoint, c'est une affaire qui, après avoir bouleversé le Nigeria, émeut le monde entier désormais. L'enlèvement de plus de 200 lycéennes le mois dernier par la secte Boko Haram. Écoutez par exemple la réaction de cette Nigériane, Hajia Hafsat, interrogée par notre correspondante à Lagos, Julie Vandal.
Toutes les mères doivent se sentir concernées par cet enlèvement, même une femme qui n'a jamais donné la vie. Si j'étais mère d'une des adolescentes disparues, je crois que je préférerais qu'on me dise que ma fille est morte plutôt que d'imaginer ce qu'elle doit être en train de vivre en ce moment. C'est terrible. Shikao dit que l'ordre lui a été donné par Allah. Mais en tant que musulman, on sait que depuis la mort du prophète Mahomet, personne ne peut recevoir d'ordre de Dieu. Cela montre clairement que ces gens ne sont pas des musulmans. Ils ne font que salir notre image.
À suivre évidemment dans nos différents rendez-vous d'information. Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité, avec en France cette fois un entretien de François Hollande accordé mardi à la radio privée française BFM. Écoutez, le président de la République parlait du rejet de sa politique, lui parle de doute et de son supposé amateurisme.
Mais le doute, il est normal. Pensez que dans une période de crise, dans une période de difficulté, les Français pourraient être indulgents, pourraient être bienveillants quand on leur demande tant d'efforts. Je leur ai demandé beaucoup d'efforts. Je leur ai demandé à un moment où ils espéraient tout de suite pouvoir avoir le retour de leur vote pour ceux qu'ils avaient effectué en ma faveur. Je leur ai demandé d'avoir aussi un effort de solidarité à travers des prélèvements. C'est pas facile. Je l'ai fait dès le mois de septembre. Je n'ai pas attendu septembre 2012. Bon, ensuite, vous me dites, il y a eu pendant 2 ans une forme d'amateurisme. Amateurisme quand il s'est agi de sortir de la crise de la zone euro. Amateurisme quand il s'est agi d'intervenir au Mali, quand personne ne le faisait et que le terrorisme était en train de gagner la partie. Amateurisme quand il s'est agi d'aller en Centrafrique pour éviter un génocide. Amateurisme quand il s'est agi sur la crise syrienne, où j'étais le seul chef d'État occidental à dire « attention ». Ce qu'on est en train de laisser faire, c'est un massacre.
Mais vous avez...
Et donc, moi, je préfère prendre mes décisions, prendre mes responsabilités, et puis être jugé sur les résultats.
Sept jours dans le monde.
Jean-Michel, Quatrepoint, partons pour l'Ukraine avant de vous retrouver dans l'Est, dans la région de Slaviansk exactement. Reportage de nos envoyés spéciaux Daniel Vallot et Bertrand Eclair.
Véhicules blindés, camions militaires, le convoi de l'armée ukrainienne se dirige vers la tour de télévision qui surplombe les villes de Sloviansk et de Kramatorsk. Sur le bas-côté, les habitants du village voisin regardent passer les soldats, les visages fermés, les poings serrés. Ici, l'armée ukrainienne n'est pas la bienvenue.
Pour nous, c'est une forme d'occupation. Ils disent qu'ils viennent nous libérer, mais nous n'avons demandé l'aide de personne.
Au village, certains sont allés se battre à Sloviansk. Je connais un gars qui a fait son service militaire avec l'armée ukrainienne et maintenant il se bat contre elle.
Le passage des blindés suscite l'hostilité des habitants, mais aussi la crainte de voir éclater de nouveaux affrontements.
C'est surtout la nuit que j'ai peur. Au moindre bruit, je me mets à trembler. On a tellement peur qu'on reste à la maison. Dehors, il paraît qu'il y a des snipers. Moi, j'ai 75 ans. J'ai déjà vécu une guerre. Alors, est-ce que ça va recommencer ?
Depuis 5 jours, le village est privé d'électricité en raison des combats. Dans le seul magasin encore ouvert, les rayons commencent à se vider. Mais ce qui inquiète le plus la gérante, c'est de voir l'armée ukrainienne renforcer ses positions à moins de 5 kilomètres à vol d'oiseau de la ville de Sloviansk.
Ambiance de guerre donc dans l'est de l'Ukraine. Nous reparlerons dans un instant de l'Ukraine, de ce pays, après les propos de Vladimir Poutine demandant mercredi aux séparatistes de repousser leur référendum prévu demain. La situation est à suivre dans nos journaux, dans lesquels on vous parle aussi des cérémonies du 9 mai hier, la fin de la Seconde Guerre mondiale côté russe, avec notamment des festivités hautement symboliques en Crimée, en présence du président russe. Suite d'une semaine d'actualité, Jean-Michel Quatrepoint, vous êtes spécialiste d'économie, j'ajoute à la présentation, donc auteur de ce livre, Le choc des empires. Vous avez dirigé les rédactions du Nouvel Économiste, du Temps, de la Tribune de l'Expansion également. La Russie n'est pas dans votre livre.
Non, parce que la Russie n'est plus un empire et la Russie n'est pas redevenue un empire. Elle voudrait le redevenir.
Ah oui, Vladimir Poutine le voudrait.
Mais la Russie a un problème économique. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est « Qui dominera l'économie monde ?» Donc je me suis placé sous l'angle économique. Et la Russie, économiquement, n'a pas du tout la même puissance que, bien évidemment, les États-Unis, la Chine... et l'Allemagne. Le drame de la Russie, c'est devenu un pétro-État. Et la Russie a les défauts des pétro-États, comme le Nigeria d'ailleurs, hein, et quelques autres. Et son économie est par trop dépendante du pétrole et du gaz. Et je pense que l'échec de Poutine jusqu'à maintenant, c'est de ne pas avoir réussi à transformer son économie d'une économie pétrolière à une économie diversifiée. Il tente, avec l'appui d'ailleurs des Allemands, qui ont beaucoup de relations avec la Russie, avec l'appui des Italiens. Les Italiens ont beaucoup plus d'affaires avec la Russie que les Français, par exemple, et avec l'appui aussi de la Chine, car depuis 2-3 ans, on assiste à un rebasculement un peu de la Russie vers la Chine et de la Chine vers la Russie. Avec l'accord de l'Allemagne, j'explique dans le livre qu'ils sont en train depuis 2 ans, de redévelopper la route de la soie avec les chemins de fer pour faire transiter une partie des marchandises de la Chine vers l'Europe et de l'Europe vers la Chine par le chemin de fer et non par le bateau. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue économique, car les usines chinoises se relocalisent à l'intérieur de la Chine pour avoir une main-d'œuvre meilleur marché, puisque sur la côte, les salaires ont nettement augmenté, on tourne autour de $400 à peu près par mois, alors que dans le centre de la Chine, c'est à $100. Donc depuis 2-3 ans, les multinationales et les entreprises chinoises rebasculent sur le centre de la Chine, d'où la construction des villes nouvelles, d'où d'ailleurs, ce qui est, de mon point de vue, une erreur, une accélération de l'exode rural en Chine. Et ces usines du centre de la Chine, il va plus vite, et ça coûte moins cher, de transporter les marchandises par le chemin de fer, via le Kazakhstan notamment, qui est la plaque tournante, la Russie, pour arriver en Allemagne, que de passer par la voie maritime. Et là, l'équipement se fait avec Siemens, un peu Alstom d'ailleurs, et un peu de General Electric.
Enfin, on retrouve toutes les entreprises qui font la une de l'actualité.
Et ouais. Voilà. Et donc, c'est un très grand projet. Mmh. Actuellement, il y a 3 trains par semaine, 3 grands trains de containers. Et à partir du 1er juin, normalement, il y aura 1 train par jour. Et les trains font le trajet à plein avec les marchandises chinoises vers notamment Hewlett-Packard, utilisent ce train pour approvisionner ses usines et ses vendeurs en Europe avec les produits fabriqués en Chine. Et Mercedes et Volkswagen utilisent ce train pour envoyer des pièces détachées en Chine et inversement pour renvoyer des pièces détachées. Donc c'est une économie étroitement imbriquée. Et la Russie y trouve aussi son compte. Si vous avez un nouveau climat de guerre froide qui est en train de s'instaurer, ça va poser de sérieux problèmes, bien sûr à la Russie, mais aussi à l'Allemagne et aussi à la Chine. En même temps, là on est dans la géopolitique, les Chinois comme les Russes ont bien compris que les Américains cherchaient à reprendre la main. Et depuis 2011, les Américains sont dans une stratégie de containment à l'égard de la Chine, mais aussi de la Russie, ce que l'on n'avait pas toujours vu. Et celle qui est surtout à la manœuvre, c'est Hillary Clinton. Quand elle était au Département d'État, depuis elle a quitté le Département d'État, mais elle se prépare à être la prochaine candidate démocrate aux élections présidentielles
donc,
2016.
Contenir la Russie, contenir la Chine.
Voilà, exactement.
Et diviser l'Europe aussi.
Ben évidemment, évidemment.
Qui n'est pas pour vous un empire.
Non, c'est-à-dire, l'Europe n'est pas un empire.
On parlera de l'Allemagne dans un instant, mais pas l'Europe.
Non.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons reparler de l'Europe dans un instant, Jean-Michel, 4 points. Mais repartons pour l'Ukraine. Après la demande formulée par Vladimir Poutine mercredi aux séparatistes russes de l'Est du pays de repousser la date de leur référendum, prévu donc demain, pas question, ont-ils dit. Retrouvons nos envoyés spéciaux Daniel Valo et Bertrand Eclair, jeudi cette fois à Donetsk.
Drapeau russe autour des épaules, ruban de Saint-Georges à la boutonnière, Katia se dit soulagée par le maintien du référendum à la date prévue. Pour elle, reporter ne serait-ce que de quelques jours le scrutin aurait été impardonnable de la part des dirigeants pro-russes.
Le peuple ne peut plus attendre. Et d'ailleurs, où est le problème? Pourquoi dans un pays démocratique, on ne peut pas demander aux gens ce qu'ils pensent?
Accueilli avec soulagement par les militants pro-russes, le maintien à la date prévue du référendum suscite au contraire l'incompréhension et l'inquiétude de tous ceux qui, à Donetsk, rejettent l'idée séparatiste. C'est le cas de Natalia, que nous avons rencontrée à l'écart du siège de l'administration régionale, bastion du mouvement pro-russe.
Pour eux, la façon dont ça se déroule, ça n'a aucune importance. Ils veulent juste pouvoir dire que le référendum a eu lieu et que les gens ont voté à 80% pour l'indépendance. Mais tout ça, c'est une farce. C'est juste pour les apparences.
Comme la plupart des Ukrainiens de l'Est qui s'opposent au mouvement pro-russe, Natalia refuse à l'avance de participer au scrutin. Impossible à ses yeux d'organiser un vote équitable en aussi peu de temps et dans un contexte de violence et d'affrontements quotidiens entre miliciens pro-russes et soldats ukrainiens.
Quelle image les Russes ont-ils des Ukrainiens? Une image colportée, on le sait, par la propagande. La réponse se trouve par exemple dans un livre blanc, entre guillemets, publié par Moscou ces derniers jours. Livre blanc des violations massives, dit le texte, des droits de l'homme qu'elle impute aux nationalistes ukrainiens. Correspondance de Muriel Pomponne, mardi.
Les manifestations d'extrémisme, les sentiments néo-nazis, l'intolérance religieuse, la répression, la violence physique et la criminalité sont devenues choses communes en Ukraine, estime ce rapport, qui met en cause les nouvelles autorités ukrainiennes. Des forces ultranationalistes, extrémistes et néo-nazis sont à l'œuvre, ajoutent les auteurs qui veulent, disent-ils, apporter un avis indépendant et non politisé sur les événements en Ukraine. Ils dénoncent également la complicité des Occidentaux avec ces forces extrémistes dans leur prise du pouvoir. Le rapport est illustré par des photos de 1941 d'un pogrom juif attribué au nationaliste ukrainien Bandera. Ce livre blanc est approuvé par la grande majorité de la classe politique russe. Il pourrait servir de base à une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, estime ainsi un membre du Conseil des droits de l'homme auprès du président, même si certains témoignages demandent à être vérifiés, surtout lorsqu'ils sont anonymes, ajoute un de ses collègues. Pour le ministère des Affaires étrangères, en tout cas, il démontre l'urgente nécessité de mettre en place les réformes prônées par Moscou.
Partons en Syrie maintenant avant de vous retrouver, Jean-Michel, 4 points. Des centaines d'insurgés assiégés à Homs ont évacué la ville dans le cadre d'un accord signé avec le régime de Bachar el-Assad. Une victoire évidemment symbolique pour Damas. Écoutez ce témoignage recueilli par Sami Boukhelif.
Les rebelles et les civils assiégés ont été évacués par vagues successives. Ils ont quitté la ville à bord de bus. Dans chacun des bus se trouvait un officier de l'armée syrienne, mais aussi un représentant des Nations Unies chargé de veiller au bon déroulement de l'opération. Les combattants évacués ont été autorisés à emporter une arme légère. Dans les bus, il y avait également des femmes, des enfants et des personnes âgées. Tous ont été conduits vers la ville rebelle de Dar el-Kabira, située au nord de Homs. Cette ambulance du Croissant Rouge syrien ont également servi à transférer des blessés. Le convoi a été escorté du début jusqu'à la fin par les forces syriennes.
Une semaine d'actualité, Jean-Michel, quatre points. Nous parlions de l'Europe à propos de l'Ukraine. Encore une fois, l'Europe n'est pas dans votre livre. On y parle de l'Allemagne. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Pourquoi l'Europe est-elle absente dans votre analyse?
Mais parce que l'Europe n'est pas un empire.
L'Europe en tant qu'organisation.
En tant qu'organisation. C'est même le contraire. Un empire, c'est quoi? C'est généralement une langue commune. La même langue. Le mandarin, l'anglais, etc. Ensuite, c'est généralement une culture. Les Américains, pour les Américains, les États-Unis, c'est Dieu, le drapeau, le dollar. Et pour la Chine, je dirais, c'est le capitalisme, le communisme et le nationalisme. Bon. L'Europe, c'est 28 pays. C'est un patchwork. Pas de langue commune. Pas de monnaie commune, puisqu'il y a l'euro, mais pour 18 pays seulement. Il n'y a pas de fiscalité commune, il n'y a pas de règles communes. Si, il y a des bureaucraties communes. Il y a beaucoup trop de règles et pas assez de grands principes. On n'a pas de défense commune, on n'a pas d'outils de défense. Et les frontières sont... on change, on élargit l'Europe. L'Europe s'est dissoute, l'idée européenne s'est dissoute avec l'élargissement. C'est clair, on a laissé faire l'élargissement, c'est une zone de libre-échange, et forcément, c'est le plus puissant qui l'emporte dans cette zone de libre-échange.
En revanche, l'Allemagne est au cœur de votre livre.
Bien sûr, parce qu'elle est devenue au cœur de l'Europe. Ce que nous n'avons pas compris, notamment les Français, à partir du moment où la réunification allemande s'est faite, sans contrepartie, ça n'a pas été négocié. Ensuite, l'élargissement s'est fait. Sans négociation. L'élargissement a arrangé qui? Ça a arrangé, c'est les Américains, qui voulaient que nous récupérions les pays de l'Est, effectivement, et que nous financions leur mise à niveau, tout en continuant à avoir une relation particulière avec ces pays de l'Est, notamment la Pologne, les pays baltes, etc., et parce que les Américains vendent des armes aussi. Et en même temps, l'Europe, géographiquement, le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé vers Berlin. C'est-à-dire, à l'Europe des 15, c'était la France qui était au centre de gravité, le lieu géométrique. Et Paris-Strasbourg était le milieu. Et toutes les voies de communication transitaient par la France. À partir du moment où vous élargissez à l'Est, vous avez le lieu géométrique, c'est Berlin. Et Berlin est devenu non pas une capitale d'État, mais une capitale d'empire. Et on a reconstitué le Saint-Empire romain germanique.
Avec un euro qui est le marque, selon vous.
Exactement. Car on s'est imaginé qu'on allait arrimer l'Europe, l'Allemagne à l'Europe. Et Mme Thatcher l'avait dit, mais vous vous trompez, parce que c'est l'Europe qui va s'arrimer à l'Allemagne. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'Europe continentale s'est arrimée à l'Allemagne.
Pour vous, l'axe franco-allemand n'existe plus.
Mais c'est un axe complètement déséquilibré. L'Allemagne domine, j'explique comment, au fil des ans d'ailleurs. Et on le voit bien au Parlement européen. Ce sont les Allemands. Là, c'est extraordinaire. Nous avons le choix pour le président de la Commission entre un social-démocrate allemand et Juncker, qui a été choisi par la CDU allemande.
Lui, son bourgeois, lui.
Oui, et les socialistes français disent « Ah ben, on va se mettre derrière Martin Schulz ». L'UMP a soutenu, n'a même pas soutenu Barnier, en réalité. Donc, nous avons abandonné les postes progressivement. Nous avons abandonné la bataille de la conquête de l'intérieur de l'Europe. Et avec l'élargissement de l'Europe, c'est vrai que l'Allemagne contrôle, elle a la majorité au sein du Conseil des ministres. C'est elle qui impose les règles.
Jean-Michel, 4 points, on va se retrouver dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite.